Il est 8h22.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui sociologue. Il dirige le Media Lab de Sciences Po. Il est l'un de nos meilleurs spécialistes d'Internet et de l'espace public politique à l'ère numérique. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va aborder ensemble ce matin. Intervenez évidemment dans ce débat au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et de l'application mobile d'Inter. Bonjour Dominique Cardon.
Bonjour.
Et merci d'être là ce matin. Lecture capitale, vous publiez sur le site du quotidien d'idées AOC un long article en deux volets intitulé « Pourquoi avons-nous si peur des fake news ?» Les liens vers cet article sont sur le site internet de France Inter. Lecture capitale, je le disais, parce que vous démontez le discours dominant sur le sujet, que je vais résumer ainsi, on pourra peut-être nuancer après, mais voilà le résumé. En gros, si les Brexiteurs l'ont emporté, si Donald Trump a été élu, si Jair Bolsonaro l'a aussi été au Brésil, c'est en raison de la masse d'intox, d'infox, de fake news qui ont abreuvé les réseaux sociaux et conduit les électeurs à voter pour des populistes. Vous dites que cette explication, que je résume à gros traits là, est imprégnée, et là je vous cite, d'un imaginaire de science-fiction un peu bas de gamme. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Ah oui, ça c'est plus pour l'intelligence artificielle, mais si vous voulez, le paradoxe et la question en fait, c'est que on a dans le débat public, chez les journalistes, chez les experts, et surtout chez les politiques qui sont saisis de ces questions, l'idée effectivement d'une sorte de déterminisme technologique. Tout d'un coup, la circulation des informations sur Internet, la production par toute une série d'officines multiples et variées d'informations douteuses et fausses, aurait un effet causal immédiat sur le Brexit, Trump, etc. etc. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on a dans le débat public et puis ce que les chercheurs qui travaillent sur ces questions, qui observent les données, qui les font ce qu'on appelle la sociologie du numérique avec plein d'outils. On cherche cet effet et évidemment on ne le trouve pas.
Vous ne trouvez pas dans vos éprouvettes ou sur vos écrans de corrélation entre production de fausses nouvelles, circulation accélérée et vote populiste.
Voilà, alors on trouve pas cet effet causal immédiat et direct, et du coup il y a une sorte de décalage qui s'est fait, et les chercheurs ne cessent de le dire aux politiques et aux gens de l'espace public, hein. Il y a eu un groupe d'experts européens qui a fait un très bon rapport pour dire, alors il s'agit du coup de calmer un petit peu cette panique, mais en même temps de dire qu'il y a des choses plus inquiétantes qui se passent. C'est-à-dire que je pense que cette explication finalement de dire les mécanismes populistes qui ont eu lieu récemment, c'est la conséquence d'une dérégulation de l'espace public sous l'effet du numérique, c'est une explication écran pour ne pas voir d'autres phénomènes beaucoup plus majeurs. Donc, même si à l'évidence, l'espace public numérique est en train de se transformer de façon forte.
Vous avez prononcé le mot, pourquoi panique ? Pourquoi cette question-là suscite-t-elle la panique ?
Alors, moi, il me semble qu'une des raisons de cette panique, c'est précisément le fait que, avec le numérique, les règles du jeu ont changé. Et que, du coup, n'y comprenant plus rien, on a tendance à les interpréter de façon, on pourrait dire, la plus immédiate et la plus simple possible, et notamment avec cette idée d'une sorte de détermination mécanique entre les informations et puis les conséquences qu'on en tire, sans connaître les mécanismes de réception de l'information. Une des choses étranges dans ce débat, c'est que on voit réapparaître une sorte de théorie des effets des médias qui serait des effets forts. Alors, qui a été un débat très ancien sur la radio. Quand la radio est arrivée, on a pensé qu'elle avait des effets hypnotiques sur ses auditeurs et que tout d'un coup, le journaliste qui lui parle, comme vous êtes en train de le faire à ses auditeurs, pouvait guider absolument ses intentions, qui pouvait, comme Orson Welles avait fait en 1938, paniquer tout le monde en faisant croire que les Martiens étaient en train de débarquer.
Or, il a été démontré, bien démontré, surdémontré et redémontré que c'est faux, mais on voit réapparaître cette vieille idée en ce qui concerne les fake news. En substance, exposer aux fake news des citoyens pas assez cultivés ni assez politisés votent mal. C'est ça le...
Alors, il y a cette grande conséquence qui est liée au numérique, effectivement, c'est que les effets en réalité sont faibles et qu'on a toutes les raisons de penser, même si là, on n'a pas assez de recherche sur ces questions. On a toutes les raisons de penser que le paysage informationnel s'est si radicalement transformé. On vit dans de l'information ambiante partout. Elle nous traverse, elle circule dans des espaces multiples et variés. Elles sont dans nos poches, elles sont partout. Que du coup, les effets sont faibles, diffractées, médiées, qui sont multiples dans les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les décisions que peuvent prendre les individus. Et on n'est évidemment pas dans un système d'effets forts de ce type-là. La conséquence de ça, c'est aussi qu'on est en train de couper les populations. Et que ça, c'est un peu...
Expliquez-nous.
Alors, on pourrait dire que c'est un peu la grande histoire du numérique. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a dit, c'est formidable, les individus autonomes peuvent enfin s'émanciper de la tutelle des journalistes, des éditeurs qui leur listent, trient et sélectionnent les informations qu'ils doivent lire. Ils vont pouvoir choisir parce que l'individu est fort, parce que l'individu a cette autonomie nouvelle qu'il a conquise contre les intermédiaires. Et puis ce discours individualisant, c'est-à-dire l'individu fort est devenu, c'est complètement renversé, avec l'idée que on a donné aux individus le pouvoir de choisir et en fait ils font un très mauvais usage de cette liberté. Et alors le discours ambiant est de dire finalement les gens aiment des contenus douteux, ils s'intéressent à des choses médiocres, ils sont crédules et vont endosser tous les discours un peu étrange qui circule sur Internet. Et du coup, cet individu fort a été basculé en un individu faible. Et du coup, il faut le protéger. Et du coup, on voit réapparaître tout ce discours sur lequel il y a des dangers, des menaces sur la démocratie parce que les individus ne sont finalement pas à la hauteur de la promesse de libération que leur aurait permis ou offert Internet.
Alors, ça, c'est un premier ensemble d'analyses que vous faites dans cet article du quotidien en ligne AOC. Deuxième ensemble, vous montrez, Dominique Cardon, que les fake news ne prospèrent pas ex nihilo. Ça, c'est un point très important et très intéressant. Il faut que des médias puissants et où des gens très populaires ou puissants également les blanchissent. Ça, c'est le terme que vous employez, comme un cartel de la drogue cherche à blanchir son argent. Comment fonctionne ce blanchissement?
Alors, c'est un des aspects essentiels des travaux américains et français sur ces questions, et on a fait une enquête avec le MIT qu'on a fait au Media Lab en France avec l'Institut Montaigne pour essayer de comparer les deux situations.
Alors,
françaises,
voyons
et
les États-Unis pour commencer.
Et la situation américaine effectivement est très frappante sous ce rapport-là, c'est-à-dire que la première chose qu'il faut entendre, c'est que de toute façon dans le numérique, puisque tout le monde peut plus ou moins s'exprimer, enfin peut s'exprimer potentiellement, on a plein d'officines qui produisent ou de discours qui sont des infox multiples et variés. Mais pour qu'elles soient structurantes, pour qu'elles produisent des effets, il faut que des gens qui sont au cœur de l'espace politico-médiatique reprennent ces informations et pratiquent, alors blanchiment est la bonne expression, c'est-à-dire qu'ils retraduisent des informations qu'ils vont piocher dans les caves de sites à très faible visibilité en réalité, avec des publics extrêmement minimes et puis très idéologiques, pour ensuite les porter et les propulser au centre du débat public pour arriver à recadrer toute la forme de la conversation politique américaine. Alors aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, les médias de centre-droit, les grands médias, et là je n'en ai pas en train de parler de petits sites obscurs, mais les grands médias de centre-droit américains ont été d'une certaine manière hackés par Fox News et Breitbart. Et Fox News est devenu la chaîne télévisée d'information principale de 30% ou 30 à 40% des électeurs de Donald Trump. Mmh. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit site obscur.
Non, c'est une télévision masse.
Mais l'espace journalistique américain, et c'est là qu'à mon avis il y a quelque chose d'important souligner, l'espace journalistique américain s'est totalement déchiré. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations qui disent A sur Fox News, alors que tout le reste de l'espace médiatique américain, du New York Times, au Washington Post, au Wall Street Journal, est en train de dire B. Et Fox News, encouragé aussi par sa connivence avec la nouvelle forme qu'a prise le Parti républicain sous l'impulsion de Donald Trump aux États-Unis, peut arriver à produire cette chose qui est très étrange, c'est-à-dire on a des faits alternatifs dans lesquels finalement on peut avoir de façon superposée deux réalités dans lesquelles l'espace journalistique n'exerce plus sur lui-même, à l'intérieur de ses propres rangs, une espèce de critique mutuelle sur les procédures mêmes du métier journalistique.
Dominique Cardon, pourquoi le phénomène que vous venez de décrire de blanchiment à travers des médias puissant, voire surpuissant. Pourquoi ça n'existe pas encore, je ne sais pas, en France?
Alors voilà, nous on a essayé au Media Lab avec Jean-Philippe Cointet, Benjamin Hogg et Guillaume Plic, on a répliqué cette étude et on a vu ce que montre l'enquête sur la situation des médias français, c'est qu'il y a un centre et un hypercentre de grands médias, radio et télévision, dans lequel le taux de citation mutuelle entre les médias est assez fort, donc il y a une certaine densité, il y a un certain effet de vigilance croisée et mutuelle entre les rédactions. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles ont les mêmes points de vue, mais ça veut dire que sur les règles du métier, qu'est-ce que c'est qu'un fait, qu'est-ce que c'est qu'une enquête, qu'est-ce que c'est que le travail journalistique vis-à-vis des sources, elles essayent d'appliquer des règles communes et que si l'une des rédactions ne respecte pas ces règles, elle va être soumise aux reproches des autres. Donc la critique mutuelle à l'intérieur d'un espace professionnel et surtout de cet espace professionnel très important qui est celui des médias, est le cœur même d'une sorte de régulation mutuelle qui permet d'en assurer la qualité initiale, on va dire, de la production du produit informationnel qui est donné. Bon, on a eu des exemples récents, on a vu qu'il y a eu des fake news et même des fake news portées par des personnalité du gouvernement. Bon, on voit très bien comment fonctionne l'espace médiatique. Hein. C'est une énorme machine qui arrive, qui regarde, qui vérifie et qui montre.
Mais pourquoi
que
ça fonctionne encore ici? Ce travail de vérification et de pouvoir dire 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 n'est pas égal à 3 et fermer le débat et au lieu de le laisser prospérer.
Alors, c'est, me semble-t-il, l'intérêt qu'une sociologie du numérique peut apporter dans un débat sur le déterminisme technologique. C'est-à-dire que dans le débat sur les fake news, on a tendance à dire c'est la technologie qui fait. C'est à cause de la technologie que l'espace public est devenu dérégulé, sauvage et incompréhensible. En fait, la technologie, elle est prise dans l'histoire, elle est prise dans les stratégies, elle est prise dans des acteurs qui ont des rapports sociaux, qui ont des rapports politiques qui sont différents. C'est différent. La construction de l'espace journalistique américain est différent de celui de l'espace français. Bon, en France, on sait qu'il y a une centralisation forte sur la question du journalisme. Il y a des écoles qui ont hyper professionnalisé les trajectoires et les carrières. Il y a une sorte de centralité parisienne des rédactions qui est aussi très très forte. Et du coup, on a un espace qui a cette forme de cohésivité, qui est une qualité à l'égard de la reprise d'informations qu'on ferait remonter au centre, qui peut aussi être un problème.
Dominique Cardon, une fois que toutes ces précisions ont été faites, est-ce que le problème ne reste pas entier? Et là, je vous demande votre analyse ou votre sentiment. La circulation de fake news, peut-être qu'on est qu'au tout début d'ailleurs du phénomène, est-ce que ça abîme un espace démocratique, un espace public ou pas?
Ah bah, ça peut être une question. Moi, ce qui me semble, c'est que dans l'espace numérique, si on le conçoit bien comme un espace étagé, les caves, il faut peut-être s'y résoudre, ne vont jamais être très très propres. Ne vont jamais être très très propres. Mais en revanche, il est absolument essentiel, évidemment, pour l'espace démocratique, que quand on a une visibilité plus forte des informations, qu'elle commence à remonter vers des acteurs qui ont de la visibilité. C'est un des arguments centraux de ces études, c'est de bien montrer qu'il y a une hiérarchie, qu'un compte Twitter qui a 8 millions d'abonnés, c'est pas la même chose qu'un compte Twitter qui a 10 000 abonnés, qui n'a pas une grande visibilité.
Non, mais si une fake news ne fait pas une élection, est-ce que des fake news ne fragilisent pas la démocratie? C'est ça,
elle fragilise la conversation elle fragilise la démocratie si elles viennent occuper la conversation centrale. Donc il est très important dans l'activité, on pourrait dire, de mise sur agenda, de cadrage des informations, que ceux qui ont la visibilité la plus forte et l'autorité la plus forte dans cet espace ne soient pas les relais des infox, mais surtout que les infox, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas la fake news née dans les caves conspirationnistes d'un site obscur qui rentre dans le centre, c'est tout l'espace, le système de déplacement des cadres d'interprétation, c'est-à-dire que l'information est retraduite, puis retraduite dans une retraduction qui fait un thème et qui contribue, et là je pense qu'il y a des raisons aussi d'être sensible à ça, à mettre des thématiques au cœur des débats qui sont venus des marges de l'espace. On peut vraiment penser que les questions sur l'immigration et sur l'identité sont en partie un effet de déplacement de notre conversation globale sous l'effet de ces conversations extrêmes.
Comment un État peut-il réagir à cette nouvelle forme de débat, de discussion, de circulation d'un certain nombre d'informations ou d'infox? On voit la France adopter une loi anti-fake news, commencer à se diriger vers une loi aussi sur la haine en ligne, avec la volonté de responsabiliser les acteurs, de celui qui poste le message à celui qui l'héberge et à celui qui le fait circuler, responsabiliser et punir. Est-ce que vous trouvez ça légitime de la part d'un État démocratique ou totalement inutile?
Mais alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons déjà un appareil de législatif qui
procède à
toutes ces affaires. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même dans l'agitation législative qui a eu lieu, c'est que de toute façon, elle propose un dispositif de renforcement législatif qui est assez peu opérant. Il risque d'être inefficace. Il faut saisir le juge pendant la période de campagne électorale et demander ensuite par référé d'enlever les informations. C'est en fait assez peu réaliste. Donc, c'est un peu une loi de communication. Ça pose un problème d'être liberticide, c'est-à-dire qu'il y a aussi des risques que des décisions soient prises qui ne soient pas les bonnes, et notamment qu'on produise des pressions sur les plateformes qui les conduisent à faire de la surmodération, c'est-à-dire que ayant peur de toute façon d'avoir des problèmes, elles effacent des contenus qui ne devraient pas être effacés au regard de la loi de 1881. Donc il y a quand même un enjeu un petit peu fort sur ces questions, même si, et c'est très important, la question de la régulation des plateformes, de comprendre ce qu'elles font, de ce que font leurs algorithmes, de la manière dont elles modèrent tous ces aspects, devient là une question centrale.
Allez, on file au standard pour ouvrir le débat avec vous, Dominique Cardon. On est en ligne depuis la Bretagne avec Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute. Soyez le bienvenu sur Inter.
Bonjour, merci. Ma question est renvoie en fait à un travail récent d'un collègue de Sciences Po, de Monsieur Cardon, qui montrait qu'une fois que le public a été exposé aux mauvaises informations, pas forcément aux fake news, mais aux mauvaises informations, il était trop tard pour rectifier. C'est-à-dire que l'idée qu'en exposant ces gens-là à des travaux, à des réalités chiffrées qui viennent de sources neutres, comme peuvent être, je sais pas, les institutions européennes par exemple, c'était trop tard. C'est-à-dire que ces gens ne changeaient plus d'avis, de toute façon.
Merci Olivier pour cette question profonde. Dominique Cardon.
Alors, il faudrait avoir beaucoup de nuances méthodologiques sur ces questions, mais moi ce que je vais répondre plus généralement, ce à quoi il faut être attentif dans ce débat, c'est à faire attention à ce qu'on ne cherche pas à dire que les autres sont crédules. Hein. Il y a quelque chose dans le débat fake news qui est assez fascinant, c'est qu'on a des gens du centre qui défendent la raison, la science et la vérité, et qui pensent que les autres ont des biais cognitifs. Et les autres, c'est toujours les enfants, les provinciaux et les gens qui ont peu de diplômes. Hein. Et on l'a vu dans le débat Gilets jaunes, c'était une sorte de mépris de classe considérable à l'égard de l'idée « les autres sont crédules », puis on a beau leur dire, et ils continuent à être crédules. Nous sommes tous crédules. Nous avons tous des préjugés qui sont attachés à nos socialisations, à nos trajectoires professionnelles, à nos ambiances politiques. Nous avons plein de déterminations. Si on reconnaissait ces déterminations, je pense qu'on vivrait
beaucoup
mieux.
Mais une fois qu'on a fait ça, on peut reconnaître qu'un énoncé peut être faux, alors, sans que ce soit du mépris de classe.
On peut reconnaître qu'un énoncé peut être faux. On peut aussi penser que soumis à la discussion, il peut y avoir des révisions d'opinion. Ceci étant, c'est vrai que nous avons, alors ça c'est un grand classique, hein, une exposition sélective aux informations qui fait qu'on a toujours une tendance à nous diriger vers des informations qui confortent nos propres idées préalables.
La question qui vous a été posée à l'instant, Dominique Cardon, m'a rappelé le débat sur les vaccins. On a appris par une étude Gallup sortie cette semaine que la France est le pays le plus sceptique au monde en la matière. Un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas sûrs. Comment analysez-vous ce phénomène-là, qui n'est pas né avec les réseaux sociaux, mais qui y a pris de l'ampleur en tout cas?
Mais alors, c'est un des enjeux sur lequel évidemment une sensibilité est absolument importante, dans lequel on a vu des acteurs, et là aussi des acteurs du centre, hein, des médecins venir défendre et soutenir un discours anti-vaccin. Donc ce n'est pas une production, on pourrait dire, de petits réseaux informels qui auraient fait naître cette méfiance à l'égard des vaccins. C'est que à l'intérieur même de l'espace central, des propos anti-vaccins ont été tenus et ils sont venus nourrir toute une série d'attentes. Et c'est là qu'il faut, je crois, être très attentif à la diversité des attentes. C'est-à-dire venir leur dire, attendez, c'est faux, vous voyez, les études le disent, et ça, toutes les études le disent, donc c'est assez facile. Mais ce discours un petit peu de la vérité contre l'ignorance risque de rater le fait que les anti-vaccins, en fait, adossent leurs critiques. Ils savent en partie que c'est pas tout à fait exact, les informations scientifiques qu'ils mobilisent, à d'autres valeurs. Des valeurs liées à la nature, des valeurs liées au corps, des valeurs... Donc ils proposent positivement, pour eux-mêmes, une sorte de méfiance contre l'artificialisme médical, qui est une des tendances qui est en train de courir dans nos sociétés. Et donc si on veut les convaincre, et ce qui est important et nécessaire, de revenir vers les vaccins qui sont la meilleure protection contre les maladies, il faut aussi être attentif à quoi ils ont accroché cette nouvelle valeur qui est l'idée d'une vie naturelle avec ses espérances et ses espoirs un peu faux.
On part au standard à nouveau. Bonjour Denis.
Bonjour.
Bienvenue.
Bon, alors, bonjour aux services publics et à la radio intelligente. Alors, voilà, moi je suis ancien journaliste et j'anime un atelier anti-fake news au collège de Sarlat. Et les enfants sont extrêmement réceptifs, de la 6e à la 3e, et à toutes les explications qu'on leur donne, aux mises en garde qu'on leur fournit, et aussi... je constate, moi, qu'ils hallucinent, Les grands mentent, peuvent raconter des cracks sur des trucs très graves, comme les vaccinations, comme les Roms qui enlèvent des enfants, comme le Brexit qui met le bazar dans tout un pays. Ils hallucinent. Voilà.
Merci Denis pour ce témoignage, Dominique Cardon.
C'est très important, il faut évidemment, cette éducation aux médias est très centrale, elle n'est pas assez soutenue en France, beaucoup d'associations sur
Interclasse,
ce domaine.
France Inter le fait depuis des années.
Bravo. Et il y a plein aussi de dispositifs pédagogiques qu'il faut mettre en place, qui sont en train d'être imaginés, notamment celui de la provocation. Moi j'aime beaucoup cette chose que font les éducateurs sur ces questions, qui est de dire les Américains sont jamais allés sur la Lune. Parce que tu crois que la Lune existe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pousser une sorte de logique de l'enquête pour que finalement, des croyances qui sont vraiment infondées sur rien, on aille chercher dans la croyance le point de déraison vers lequel le point d'horizon de déraison vers lequel elle fuit.
Une question sur l'application France Inter. L'un de vos anciens étudiants, il s'appelle Yaël. J'ai eu Dominique Cardon comme professeur durant mes études. Il était à l'époque très positif sur les usages de Facebook. L'est-il toujours autant? Il y a un petit smiley rigolard qui accompagne la question.
Il s'agit pas de Facebook. Il s'agit de dire, est-ce qu'il faut être positif à l'égard du fait que les gens peuvent se connecter, discuter, converser, s'exprimer dans des nouveaux espaces numériques avec des outils multiples et variés. Oui, ça, moi je pense que c'est ça qu'il faut défendre. Il faut défendre cette idée d'une émancipation de la société à travers ces systèmes de conversation. Ces systèmes de conversation, quand ils sont massifiés, quand ils ont été multipliés et mis sous l'emprise aussi d'entreprises monopolistiques, pose de plus en plus de problèmes. Donc le problème, c'est le monopole, le problème, c'est une partie des usages qui peuvent en être faits. Mais l'idée que la société puisse tout d'un coup avoir ces nouvelles formes d'échange, de coopération et de production, ça, à mon avis, il faut continuer à la défendre. Il faut sans doute la défendre avec d'autres outils et en étant beaucoup plus critique à l'égard des plateformes.
On a une autre question sur WhatsApp par rapport aux réseaux sociaux. Un réseau social comme Facebook, on peut y circuler de manière ouverte. WhatsApp, c'est une messagerie qui est de ce fait beaucoup plus privée, ou en tout cas semi-privée. Et les infox circulent aussi sur WhatsApp, donc avec un canal bien plus direct vers nos yeux et nos oreilles. Comment voyez-vous la différence entre ces deux technologies?
Alors, c'est vraiment le point sensible qui ressort de toutes les enquêtes, c'est-à-dire de s'inquiéter des fake news sur Twitter et assez vain, parce qu'en fait, on a montré pour les États-Unis que 80% des fake news avaient été en fait vus par 1% des comptes Twitter. Donc c'est les mêmes et c'est des gens qui sont déjà très convaincus et très idéologisés. En revanche, il y a un espace conversationnel, on pourrait dire, de petites niches de conversation qui circulent. C'est Facebook, c'est Messenger, c'est WhatsApp et c'est toutes les messageries de petits espaces dans lesquels le niveau de visibilité de l'information est beaucoup plus faible. Les chances que vous ayez quelqu'un qui vous dise « arrête, c'est complètement idiot, c'est faux » et sont beaucoup moins importante. Et du coup, la circulation dans des modalités qui sont variées, parce qu'on fait aussi circuler ces informations pour faire rire, pour provoquer, pour choquer, pour d'autres usages que de dire j'y crois. Hein, le croyant est celui qui croit que les autres croient. Et donc, on est toujours dans cette idée que si les gens les mettent en circulation, c'est parce qu'ils y croient. Mais en tout cas, on sait que c'est dans ces espaces-là, peu étudié par les chercheurs parce que peu accessible dans les données, circule les fake news. On l'a vu en Inde, on l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, et c'est un des sujets d'inquiétude.
C'est là qu'il faut regarder de très près. Merci beaucoup Dominique Cardon. Je renvoie donc à cet article « Pourquoi avons-nous si peur des fake news ?» C'est un texte lumineux, technique parfois, aride, mais tout à fait lisible. Il est publié sur le site du quotidien d'idées en ligne AOC, les liens sur notre propre site internet.